peut qu'être conforté dans le message lorsqu'un chant fait la transition, puisque le dernier couplet de ce chant nous dit « Car il vient pour juger la terre ». Et c'est ce par quoi je voulais commencer le message. Dieu vient. Soyez prêts, car Dieu vient. L'affirmation traverse l'Écriture à partir des psaumes que vous avez pu méditer jeudi. Le psaume 96, versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le psaume 98, qui commence de la même manière que le psaume 96, c'est-à-dire « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau car il a fait des prodiges », se termine également « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains et que toutes les montagnes poussent des cris de joie » devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Ces deux psaumes alternent avec deux autres psaumes qui commencent par « L'Éternel règne ». Que la terre soit dans l'allégresse. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, au psaume 97, mais au psaume 99, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il y a les deux aspects. Il vient pour juger la terre, dit le prophète, avec justice, selon sa fidélité et avec équité. Combien il est rassurant de savoir que le Seigneur vient juger. Puisque tout sur la terre est question d'injustice, de différence de traitement entre les humains, de colère, de guerre, de spoliation, etc., etc. Alors, lorsque la parole dit « Le Seigneur vient », cela doit nous rassurer. Puisque le Seigneur vient, allons à sa rencontre. N'attendons pas seulement qu'il vienne. Allons à sa rencontre. C'est aussi l'invitation des prophètes. Le prophète Ésaïe commence pratiquement par cela dans son chapitre 2, les versets 2 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » De leurs glaives, ils forgeront des hoyos et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ah, lorsque le Seigneur vient, lorsqu'il est là, lorsqu'il juge, vous voyez le résultat ? Lorsque l'on vient chercher les voies de Dieu, c'est une pacification totale. Lorsque le Seigneur sera le juge des nations, lorsqu'il est le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Le seul et le véritable arbitre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Voyons maintenant le premier jugement du Seigneur lorsqu'il est venu. Car le Seigneur vient, mais maintenant nous pouvons dire et nous savons qu'il est venu. Il a paru. Bien sûr que le Seigneur est venu en Jésus-Christ. Il est déjà venu juger, commencer le jugement sur la terre. C'est ce qui apparaît dans l'évangile selon Jean en particulier. Chapitre 3, je vous lis quelques références de l'évangile selon Jean. Chapitre 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Le Seigneur Jésus vient pour sauver, mais sa simple présence donne le commencement d'un jugement sur ce qui est dans le cœur de l'homme. Chapitre 5, verset 24. Ce verset isolé du contexte, tout simplement, je le lis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a été jusqu'à dire, au chapitre 12 du même évangile, versets 31 et 32, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. De la même façon, chapitre 16, versets 8 à 11, au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Par la présence de celui qui est resté saint parfait, juste aux yeux de Dieu. Le jugement s'exerçait sur celui qui avait entraîné l'homme à la révolte et au péché, le prince de ce monde. Alors, le Seigneur était confronté à des détracteurs, bien sûr, et il dit à un moment donné, chapitre 15, versets 22 à 25, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Ils n'ont aucune excuse maintenant de leur péché, puisque le Seigneur ne leur faisait que du bien, n'apportait que des délivrances, n'apportait que du pardon, apportait le soutien, guérissait les malades, chassait les démons, ressuscitait les morts, multipliait le pain pour la foule. Et malgré cela, ils n'ont pas cru. C'est là que s'opérait le jugement. Lorsqu'au chapitre 9, Jésus vient de guérir l'aveugle né. Cela se conclut par versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Voilà, je terminerai encore ces références au chapitre 13, versets 44 à 48. Non, ce n'est pas possible que ce soit le chapitre 13, puisqu'il n'y a pas 44 et 48. Alors, je vais chercher un peu. 44 à 48, ça c'est sûr. C'est 12. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Donc, il résulte de l'ensemble de ces passages que Jésus était véritablement venu pour sauver. Et que là s'opère un jugement, c'est que celui qui croit à ce Seigneur qui vient sauver, il reçoit le pardon. Il reçoit la délivrance. Il reçoit le salut. Mais celui qui se ferme à cette révélation, celui qui se ferme à l'amour du Fils de Dieu, se prépare pour le jugement. Alors le Seigneur, en envoyant son Fils, a vraiment commencé le jugement avec justice. Non pas sur un ouï-dire, comme il est dit dans un prophète. Le Seigneur n'agit pas sur des ouï-dire, mais sur des faits. Lorsque vous entendez, lorsque vous rencontrez le Sauveur, qu'en faites-vous? Le Seigneur a jugé la terre déjà par la venue de son Fils avec justice, et il le fait encore. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples qu'il va repartir, mais qu'il va venir à eux par le Saint-Esprit. Au chapitre 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus était présent sur la terre, se renouvelle et a la même mode opératoire aujourd'hui, alors que Jésus est au ciel, parce que le Saint-Esprit est là, parce qu'il remplace le Seigneur Jésus physiquement, le Saint-Esprit est à l'œuvre de la même manière pour juger ce qui est dans les cœurs. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, donne la parole de Dieu et nous croyons à cette parole ou nous n'y croyons pas. C'est là qu'est le jugement. Le Seigneur vient jusqu'à faire sa demeure en nous. S'il a fait cette promesse, nous pouvons vraiment compter sur lui. Jésus dit, toujours dans ce chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà la manière dont le Seigneur vient aujourd'hui. Mais encore maintenant, il est dit que le Seigneur vient. Il est l'Apocalypse commence de cette manière. Chapitre 1, verset 8. Celui qui est, qui était et qui vient. Et juste au-dessus, le verset 7, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Ce Seigneur qui est venu, qui continue à venir vers les hommes par le Saint-Esprit, viendra à nouveau, il paraîtra, il se révélera de façon glorieuse à toute l'humanité. Vous connaissez bien sûr ces passages, à commencer par ce que l'ange dit, les anges disent aux apôtres, alors que Jésus vient de monter au ciel, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Jésus lui-même, bien sûr, a dit « Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » L'apôtre Paul, aux Thessaloniciens nous dit une chose précieuse. Parce que on voit là qu'il y a un progrès dans la façon dont le Seigneur vient. Chapitre 2, versets 1 à 10. Chapitre 1, pardon. Verset 10. Alors, je suis obligé de prendre un peu plus haut. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Lorsque le Seigneur va venir, c'est pour être glorifié dans ses saints. Soyez donc ses saints, dans lesquels le Seigneur va pouvoir se glorifier lorsqu'il va venir, puissamment, en gloire, au milieu de cette flamme de feu. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 4. Je suis dans Philippiens. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La différence entre la première et la venue et la seconde venue du Seigneur, elle est là. C'est que le Seigneur est venu seul la première fois. Et la seconde fois, il va venir avec tous ceux qu'il a racheté, dans lesquels il s'est glorifié. Cette gloire qui va paraître, c'est aussi la gloire de ses saints, de ceux qui ont cru en lui. Alors, bien sûr, il y a des interrogations, il y a des soupirs, mais régulièrement, la parole nous rassure, nous console, nous exhorte. Chapitre 10, de verset 37 de l'Épître aux Hébreux. Verset, bien sûr, 36, il faut toujours prendre le contexte, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans cette attente du Seigneur qui vient. Et à un moment donné, devons-nous aussi entendre « Sois patient, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 11, et répété trois fois dans le dernier, dernier chapitre de l'Apocalypse. Je viens bientôt. C'est ainsi que se termine la révélation. Je viens bientôt. Et nous allons quasiment le dire ensemble. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que faisons-nous lorsque nous prenons la scène? Nous prenons ce pain, ce vin, en annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça qui est devant nous. Il est dans un sens terrible de penser et d'annoncer que Jésus vient. Alors nous avons chanté « Jésus revient ». Ça apparaît d'une certaine manière dans ce que Jésus dit à ses apôtres. Mais en réalité, ce n'est même pas « Jésus revient », c'est « Jésus vient ». Le Seigneur Jésus viendra de la même manière que l'avait vu à l'ancien. Parce que si on disait seulement « Jésus revient », ça voudrait dire presque eh « il va revenir, mais dans les mêmes conditions que la première fois ». Mais non, le Seigneur vient et il vient pour compléter sa venue, pour achever, pour que tout soit parfait, pour renouveler toute chose, au renouvellement de toute chose. C'est à cela dont il est fait référence lorsqu'il est dit que le Seigneur vient. Il faudrait peut-être corriger le chant. Oui, Jésus vient, alléluia. On ne va pas le faire, mais voilà. Pensons à cela, en fait. Le Seigneur vient et il est terrible d'annoncer que Jésus vient car c'est le Tout-Puissant qui vient. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et il n'y aura pas à ce moment-là de délai. C'est-à-dire que l'action du jugement qui est en cours sera terminée en fait. Et nous aurons le résultat du jugement. Et tout sera prêt, accompli instantanément, en un instant, en un clin d'œil, dit le Seigneur. Ceux qui auront cru seront avec le Seigneur. Les autres devront rendre compte. Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc soyons simplement prêts par une foi sincère et une conversion véritable. Le Seigneur ne peut pas supporter les faux-semblants. Il connaît les cœurs, il sonde les reins et les cœurs. Le Seigneur Jésus ne vous a pas laissé orphelin. Il vous a donné un Père qui est dans les cieux. Il est venu à vous avec toute sa miséricorde. Si vous marchez droit avec lui, vous n'avez donc rien à craindre de son jugement. Et pourtant, sa sainte présence devrait quand même nous faire trembler d'émotion. Être en présence du vivant, de celui qui est éternellement. Oui, bien sûr, que ça Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Ésaïe lorsqu'il a été face à la vision du Seigneur glorieux? Bien sûr qu'il s'est effondré devant lui. Alors il a été purifié et justifié. Mais même si nous sommes justifiés, purifiés, je crois que nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur dans cette perfection, cette sainteté, sans que notre être se mette à vibrer d'émotion, trembler simplement par le fait qu'il est là et que nous sommes devant lui. Et alors nous aurons à l'adorer, à le glorifier, notre bouche s'ouvrira avec celle des anges pour célébrer sa gloire, une gloire éternelle, universellement reconnue, parce que le Seigneur a accompli toutes choses. Il sera venu jusqu'au terme. Pour l'instant, on peut dire qu'il est venu, mais il est venu tout accomplir pour le pardon. Tout est accompli à la croix. Et puis maintenant, les choses se préparent pour que le jour où il sera manifesté en gloire, tous ceux qui doivent participer à son royaume, à son règne, soient prêts. Alors bénissons-le pour cela. Amen.